Je m'appelle Pascal Ehrenfreund, je suis astrophysicienne de formation et j'ai également une master en biologie moléculaire et une autre en management et leadership. Je savais exactement que je voulais étudier la vie dans l'univers et quand je suis entrée à la université, je ne pouvais choisir entre l'astrophysique et la biologie. C'est pourquoi j'ai décidé à étudier les deux.
Très bien. Alors, quel a été votre parcours d'étudiante?
Bon, j'ai étudié la biologie moléculaire et l'astronomie à l'université de Vienne, à Autriche. Et en début, j'ai travaillé dans le domaine de la chimie de protéines. Il n'existe que très peu des universités ou des instituts de recherche où je pouvais réellement poursuivre un doctorat sur un sujet interdisciplinaire. Pour ça, je suis partie à Paris, à Paris 7, pour poursuivre une thèse de doctorat interdisciplinaire mêlant biologie, chimie et astronomie. Mes directeurs, Alain Léger et Louis d'Andécourt, ont fait une découverte très importante dans les années 80. Ils ont identifié des très grosses molécules organiques, aromatiques et polycycliques dans l'espace. Et je suis allée à Paris pour travailler avec eux sur ce sujet. C'était passionnante et j'étais enfin à terminer mon doctorat à Paris et ensemble avec l'université à Vienne. Et peut-être une autre chose très importante, en 1995, la NASA a fondé le NASA Astrobiology Institute. L'astrobiologie traite exactement le sujet que j'ai toujours voulu approfondir, à savoir comment la vie s'est-elle développée sur la Terre et existe-t-il une vie au-delà de la Terre et comment pouvons-nous le découvrir. J'ai donc déménagé aux États-Unis en 2005, d'abord en tant que partielle, puis complète, pour travailler pour l'Institut d'astrobiologie de la NASA. Et j'ai travaillé avec des scientifiques vraiment extraordinaires au cours de ma carrière.
Alors, quel a été votre parcours professionnel?
Oh, ça c'est une histoire assez longue. Ma carrière s'entend sur environ 30 ans, deux continents et des postes dans cinq pays. J'étais à Pays-Bas, j'étais en France, aux États-Unis, en Autriche et aussi en Allemagne. Et j'ai eu de nombreuses fonctions. J'étais le professeur scientifique, partenaire dans une start-up, responsable d'une agence de financement de la recherche et PDG d'un grand organisme de recherche et agence spatiale allemande. Et je dirige actuellement une université. J'ai eu l'opportunité, jusqu'après mon doctorat, de travailler sur une mission spatiale très passionnante, notamment la mission vers Saturne et sa lune Titan, Cassini-Huygens. J'ai pu obtenir quelques subventions très spéciales qui m'ont donné beaucoup de liberté pour poursuivre la recherche et le développement technologique que je souhaitais faire. Et je menais déjà des expériences sur la Station spatiale internationale avant d'être professeur. Et je ne savais pas où je travaillerais si je reste dans le monde universitaire. J'ai toujours eu un esprit très libre pour suivre des opportunités qui sont importantes, suivre les recherches intéressantes, une poste sûre et permanente. C'était jamais mon objectif et jamais une priorité. Ça veut dire que je suis vraiment, j'aime la science et Je veux travailler sur le sujet très intéressant. Et j'ai terminé mon habilitation sur le thème de la poussière cosmique. Et la même année de mon habilitation, j'ai reçu une grande reconnaissance, à savoir un corps céleste, un astéroïde avec mon propre nom. Ça, c'était quand même quelque chose de spécial.
En effet. Alors, quels sont vos domaines de recherche en fait?
Bon, mon domaine de recherche consiste à étudier la chimie organique dans les différents environnements spatiaux, notamment les milieux interstellaires, les comètes, les astéroïdes et les météorites, et ainsi que la surface des planètes, en particulier Mars. Assez tôt dans ma carrière, j'ai aussi contribué à la identification de fullerènes dans l'espace. Ça, c'est des molécules qui sont assez grandes. J'ai travaillé avec mon époux sur ce sujet et la preuve définitivement n'est venue qu'il y a quelques années grâce aux données de laboratoire. Les fullerènes font partir de plus grosses molécules identifiées dans l'espace, les fullerènes C60, possèdent 60 atomes de carbone. Et nous avons également qu'il existe des amas de carbone dans l'espace, mais leur structure ne peut être déterminée de manière très précise. Et bon, j'ai eu la chance de travailler sur de nombreuses missions spatiales. J'ai déjà mentionné Cassini-Huygens et aussi l'Observatoire spatial infrarouge, mais j'ai également eu la chance de travailler sur la mission de rendez-vous avec une comète, la mission Rosetta. Sont un peu pour regarder tout mon portfolio, mes recherches. Comprennent l'enquête sur l'origine de la vie sur la Terre et la recherche des traces de vie dans l'univers. Et j'ai travaillé de nombreuses années avec mes étudiantes et des postdocs sur la recherche de la vie sur Mars. Pour identifier la vie sur Mars, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Mars était peut-être habitable en début de son évolution. Elle avait une atmosphère et il avait probablement de l'eau à la surface. Mais aujourd'hui, notre planète voisine est sèche et inhabitable en surface. Ça veut dire si il y a la vie sur Mars, nous la trouverons peut-être qui dans les régions habituelles situées dessous de la surface. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. On a besoin de missions spatiales qui sont capables pour prendre des échantillons en dessous de la surface. Et je veux seulement dire, sur notre propre planète, il y a toujours de nouvelles surprises. Et dans les régions des niches les plus incroyables, nous continuons à trouver des formes de vie nouvelles, exotiques et sympas. Ça, c'est dans notre Terre. Ça veut dire que l'astrobiologie, c'est vraiment un sujet de recherche qui concerne tout le monde. Et tout le monde veut savoir si nous sommes seuls dans l'univers.
En sachant que la vie est quelque chose d'extraordinairement complexe, comme vous avez fait écho, et surtout, on n'arrive pas à définir exactement ce que c'est. Parce qu'il y a la vie sur Terre, mais en dehors de la Terre, il y a la complexité que vous avez énoncée de toute cette chimie organique, ces agencements extrêmement complexes. Pour y voir peut-être un jour une évolution possible telle qu'on la connaît sur Terre ou qu'on ne connaît pas sur notre Terre en fait. Alors,
Bon, Je veux seulement une phrase, je crois que c'est important. Avec notre instrument qu'on envoie dans une mission sur Mars, on peut seulement regarder la vie basée en carbone comme dans la Terre. C'est très difficile de rechercher la vie qui est très différente. Ça, c'est
Oui,
important.
c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, quels sont les challenges de l'astrobiologie en ce début du 21e siècle?
Bon, il y a beaucoup. En astrobiologie, il y a constamment des sujets et des questions passionnantes liées à l'étude des systèmes solaires et à la complexité de la vie. Et ces missions apportant des découvertes toujours très intéressantes. Par exemple, des échantillons des astéroïdes. La mission OSIRIS-REx de NASA a juste retourné des échantillons d'astéroïdes Bennu. Nous avons maintenant détecté jusqu'à aujourd'hui plus que 5 500 exoplanètes, mais bien des autres suivront. Et on a beaucoup de missions qui regardent un peu dans le système solaire externe. Ça veut dire qu'ils sont prévus pour étudier le Lune, de Jupiter et de Saturne. Il y a encore beaucoup de missions sur Mars. Il y a une âge, je crois, très intéressante pour l'astrobiologie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de missions liées à l'étude du système solaire aujourd'hui. Et toutes les nouvelles données aident. Trouver de réponses pour quelques questions à l'astrobiologie.
Alors, pouvez-vous nous faire part de deux à trois grandes missions, deux à trois grands projets actuels en astrobiologie?
Bon, moi je travaille beaucoup pour Mars et bon, une mission spatiale particulièrement passionnante aujourd'hui, cette année, est le rover Perseverance qui est sur Mars, la mission de NASA, qui fournit en permanence de nouvelles données sur l'habitabilité de la planète Mars et collecte également des échantillons pour une future mission de retour d'échantillons sur Mars. Ça, c'est un sujet, on a discuté déjà, je crois, 40 ou peut-être plus des années. Mars Sample Return Mission, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et le rover Perseverance, en ce moment, collecte l'échantillon pour cette mission. Ça, c'est, je crois, quelque chose de très important. Et aussi en Europe, l'ESA a une mission qui est, je crois, extrêmement patiente. Ça, c'est l'émission de ExoMars. C'est une mission européenne avec en collaboration internationale. Mais c'est une entreprise assez complexe qui permettra l'avenir de forer 2 mètres de profondeur dans les surfaces martiennes. Et on a discuté jusqu'avant qu'on croit vraiment si on trouvait peut-être des molécules, des biomolécules ou des réponses comment était le. Évolution de Mars, on doit vraiment regarder dans le sursol. Et cette mission est capable de faire ça, peut-être en 2000, lancée en 2028. Et pour préparer cette mission et des autres missions, il faut faire beaucoup de travail et des tests des instruments sur les terrains, comme dans les déserts de Atacama, mais aussi au laboratoire. Et il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs qui travaillent pour préparer les grandes missions sur Mars. Et j'ai travaillé beaucoup sur ça et je crois que c'est quelque chose qui est très important en ce moment.
Oui, c'est clair. Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiante et ou professionnelle qui vous a influencé pour vous orienter sur cette carrière d'excellence?
J'ai beaucoup de chance de travailler avec des scientifiques fantastiques en cours de ma carrière. Je veux dire, surtout à l'Institut d'astrobiologie de NASA. Et j'ai vraiment choisi d'aller aux États-Unis pour travailler dans cette NASA Astrobiology Institute. Ça, c'était très important et c'était quelque chose où il y a beaucoup de chercheurs. Différentes travailler sur un sujet. Et j'ai aussi travaillé avec de personnes qui sont vraiment extraordinaires, comme Evine van Disselk, qui explore les molécules et la chimie de l'univers. Et surtout, si on travaille avec des gens qui sont tellement extraordinaires, on pourra grandir et avoir un nouveau. Regarde dans une direction différente et on faire une évolution de la carrière, je crois. J'ai aussi travaillé très bien avec mes directeurs de thèse, Alain Léger, Louis Dandecourt, et avec mes collègues aux États-Unis sur le space policy, parce que j'ai fait pas seulement de la science, j'ai fait aussi le politique scientifique. Ça, j'ai oublié à dire avant. Et j'ai aussi travaillé beaucoup avec mon époux Bernard Funk sur de molécules organiques. Ça veut dire toujours avec de chercheurs dans les sujets différents, on grandit et on fait une évolution à la science.
Alors, pouvez-vous nous présenter l'ISU, l'International Space University?
L'Université spatiale internationale, aussi en bref ISU, International Space University, c'est la seule université au monde entièrement consacrée à l'enseignement spatial. Elle a été fondée en 1987 par trois étudiantes universitaires visionnaires. Et est depuis devenue un réseau mondial des étudiantes et alumni. Le ISU propose une variété de programmes éducatifs tels que la maîtrise en sciences spatiales nouvellement accréditée, le Space Studies Program, c'est chaque été, dans une région différente dans le monde. Et aussi de cours régionaux et exécutifs de plus courte durée. Les ISU favorisent également l'entrepreneurship et accompagnent le startup dans son incubateur dédié. Et par instant, le ISU dispose d'un réseau dynamique de, je crois, 5 600 alumni dans 112 pays et organise des formations spatiales dans le monde entier.
Alors, quels sont les challenges de l'éducation du spatial au sein de l'ISU, en sachant que vous formez l'ensemble des jeunes étudiants et étudiantes qui deviendront les leaders de demain au sein des grandes agences spatiales comme la NASA, SpaceX, l'ESA, Airbus Defence and Space ou plein d'autres?
Oui, bon, ça c'est une bonne question parce que l'évolution du secteur spatial était tout simplement extraordinaire dans les dernières années ou dizaines des années. Le secteur spatial en plein essor a besoin d'une main-d'œuvre exceptionnelle. Et Dans le domaine des sciences et techniques, il existe un immense besoin de talents qui augmentera aussi chaque année en raison de l'évolution démographique. Ça veut dire que nous avons besoin de nouvelles recrues dans le secteur spatial à l'échelle mondiale et encore plus d'employés du secteur spatial ont besoin de perfectionnement. Je ne connais pas exactement le mot en français, mais je crois que c'est en anglais, c'est reskilling and upskilling.
D'accord.
Et ça veut dire que cela devrait être soutenu par une éducation spatiale interdisciplinaire, aussi entrepreneuriale et tournée vers l'avenir. Et le ISU aide à préparer la prochaine génération des secteurs spatiaux et spécialement vraiment dans les instruments dans un environnement international, interdisciplinaire et aussi interculturel. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment unique pour le International Space University. Et qu'est-ce que c'est important aussi pour tout le monde, les entreprises spatiales recherchant partout des employés qualifiés. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup de postes et les secteurs spatiaux en développement rapide devant nous un monde des activités et des perspectives d'emploi. Et pour les étudiantes et aussi pour toutes les professionnelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est partout dans le monde. Et bon, j'espère que l'International Space University, les ISU, vraiment aide pour éduquer cette nouvelle workforce du secteur spatial.
Alors, aujourd'hui, au sein de notre société, nous vivons de nombreuses crises humaines qui nous semblent par moments insurmontables. L'une d'entre elles concerne l'accessibilité des femmes à des postes de haute responsabilité, au même titre que les hommes et avec les hommes. Au regard de votre riche expérience et des différentes responsabilités que vous avez occupées, quelles sont les idées, l'esprit que vous souhaiteriez que les femmes aient en tête pour réussir?
Bon, vous avez raison. Les femmes ne représentent qu'à peu près, je crois, 29% de la main-d'œuvre de l'aérospatiale. Ça, c'est le donné de 2021-2022.
Ça, c'est à l'international, hein? C'est parce qu'en France et oui, en Europe, c'est plus ou moins bas.
OK, non, c'est assez international. Mais c'est assez similaire au niveau des autres entreprises axées sur la technologie dans le monde. Hein. Ça veut dire, si on regarde encore de poste de la direction, il y a encore moins de femmes qui sont dans une poste de C-suite ou de la direction, c'est sûr. Mais la situation change lentement, ça change. Et aussi, on doit aider à changer cette situation. Et pour changer cette situation implique des efforts de recrutement plus actifs, et surtout les femmes, aussi peut-être des mesures de financement spécifiques, aussi des incitations et des programmes de mentorat et des questions de talent. Ils sont aussi très importantes. Et j'espère que je traduire ça correct. On dit en anglais « critical mass », ça veut dire, j'espère que c'est le même en français, la masse critique des femmes dans un environnement, dans une organisation, est vraiment essentielle au recrutement et aussi au développement des autres femmes. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est très important. Bon, il y a quand même des organisations spatiales internationales qui aident pour ce sujet. Et ils ont créé de nombreuses activités qui sont liées à la diversité et ont créé des importantes initiatives. Il y a une organisation, l'International Astronautical Federation, qui a créé l'initiative 3G, égalité de genre, géographie et de génération. Et c'est aussi une plateforme. Dans les United Nations Space for Women, il y a Women in Aerospace qui sont de plateformes partout dans le monde, dans chaque pays. Et il y a beaucoup d'organisations qui veulent aider à augmenter toutes les activités qui sont créées par cette organisation. Aide augmenter le numéro de femmes dans le secteur spatial, mais aussi bientôt qu'il y a plus de femmes dans le direction et dans les postes qui sont dans les management. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui est très important et c'est un process qui est un peu lent, mais ça change.
Très bien. Alors, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi?
Oui, je pense que la science et la technologie font partie du développement de l'humanité. Et imaginez simplement l'importance de l'intelligence artificielle. Nous devons être ouvertes et intéressées, profiter de nouvelles découvertes et les utiliser pour sauver cette planète. Je veux dire quand même, parce que j'ai travaillé sur ce sujet, il faut mentionner que notre Terre est vraiment une planète qui est tout à fait extraordinaire. Et si on regarde sur notre planète, la vie est implantée un peu partout sur notre planète. Nous trouvons des formes de la vie dans les Antarctiques, dans les déserts secs, en fond de mer et à l'intérieur de la Terre. La vie primitive est très têtue et robuste. Et de simples bactéries existant il y a 3,5 milliards d'années. Il n'existe pas une planète B, pas encore. Et nous avons besoin de la science et la technologie pour assurer la durabilité de notre planète et notre vie.
Alors pour finir, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et l'astrophysique et le spatial en particulier?
La science est vraiment géniale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de missions qui explorent notre système solaire ou les secrets de notre univers. Et il y a des découvertes et des résultats qui on voit chaque semaine et qui sont vraiment fantastiques. Nous devons commencer bien plus tôt pour susciter l'intérêt pour la science et la technologie. Par exemple, on a déjà commencé dans la école maternelle. Nous avons le devoir pour inspirer la nouvelle génération et les jeunes. Et le dire, la science est géniale pour les garçons et pour les filles.